Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Bienvenue à la Conspiration des planches, l'émission critique des arts de la scène sur Radio Campus 92.1 FM, Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Comme chaque mercredi 19h-19h30 et en rediffusion le jeudi dès 13h30, la petite demi-heure pour épingler les spectacles qui ont lieu à Bruxelles et parfois ailleurs quand il y a des événements. Aujourd'hui, on vous parlera par exemple de la Biennale Charleroi Danse, ça se passe à Charleroi, mais aussi à Bruxelles, à Liège et à Mons. J'ai à mes côtés Nicolas et Catherine, bonjour, bonsoir.
Salut.
Bonjour. Et alors voilà, alors on est parti voir cette semaine, enfin on vous parlera cette semaine de deux bonnes reprises, Tchinkali au théâtre Le Public, un seul en scène de Hervé Guérissi sur les racines italiennes. On ira voir Mon Royaume au théâtre de la Vie, ça a eu un succès, c'est passé 3-4 soirées l'an dernier, ça a eu un succès et donc ça a été repris. Catherine a eu l'occasion de le voir à l'époque, hein. Il y a des spectacles comme ça, il faut choper en plein vol. On ira du côté des Halles de Schaerbeek pour une curiosité, un opéra bouffe, un spectacle où on mange. Et enfin, évidemment, on ira faire un tour donc, dans cette biennale Charleroi Danse qui commence la semaine prochaine. Alors, Nicolas est à la technique. Je lance l'opéra bouffe qui a lieu ce week-end aux Halles de Schaerbeek, du vendredi au lundi, si je ne m'abuse. Et c'est Don Giovanni, hein, revisité. Je laisse la surprise à Catherine qui avait beaucoup aimé à l'époque. Revisité avec quelle matière ? Te souviens-tu ? C'était cet été.
Oui, mais Opéra Bouffa, c'est déjà une équipe qu'on a pu apprécier avec d'autres spectacles. Ils étaient venus avec Cucinema, qui était encore mieux qu'Opéra Bouffa. Là, c'était on mangeait encore une fois, mais il y avait un vrai spectacle devant, c'était plus frontal. Et ce qui se passait, c'est que ça commençait comme un film, dans les coulisses d'une cuisine. Et puis tout à coup, la cuisine se concrétisait, devenait matérielle sur scène. Et puis on voyait un couple en train de préparer les repas d'un restaurant, évidemment tout foiré. Et ils finissaient par nous servir ces plats qui en fait avaient été cuisinés longtemps en avance dans l'après-midi. Et là, c'est un peu le même principe. On est tous attablés comme pour un banquet. Sauf que cette fois-ci, c'est un opéra, donc inspiré de Don Giovanni, mais à la sauce flamande. Alors, c'est assez spécial d'écouter du Don Giovanni chanter en flamand, même s'ils ont gardé certains airs très connus en italien.
Il faut savoir donc qu'on nous invite à ce banquet, hein, ce banquet au cœur de Don Giovanni, dans en tout cas une partie importante de l'opéra. Et littéralement, on est vraiment invité à ce banquet. On prend place sur des grandes tables. On a l'impression qu'on va assister à un banquet. Et ben, c'est ce qu'on va faire justement. Et dans nos dos, ou alors devant nous, au bout de l'allée, se trouvent les cuisines où vont sortir les différents chanteurs qui vont être les personnages de cet opéra et nous convient à ce banquet. Ils vont être tour à tour le cuistot, évidemment. Ils vont être les serveurs, tout en reprenant les personnages de Don Giovanni.
Les airs bien connus. Alors, Don Giovanni, c'est quoi ? C'est le fameux Don Juan. Hein. Donc, Don Juan qui n'a en fait rien à foutre de sa femme. Donc, lui, il trace. Dès qu'il voit une gonzesse, il trace. Et qu'est-ce qui se passe ? Tout le long de l'opéra, la femme le poursuit, en fait. Le poursuit de lieu en lieu.
Et surtout, elle le poursuit sur les tables, entre les assiettes où on est en train de manger.
En tout cas, ici, oui.
Ouais, ici, dans les tubes. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a, à un moment donné, Don Giovanni drague la première soubrette qu'il croise, mais la soubrette est aussi un fiancé. Et alors on est dans un vaudeville avec un méli-mélo. Il y a vraiment des airs ultra déchirants de cette femme qui est bafouée et qui court à travers la ville, on imagine à travers des lieux, sur son Don Giovanni qui sera finalement puni à la fin. Et à côté de Don Giovanni, il y a le fameux Leporello qui lui fait un peu de... il essaye de sortir son gars de toutes les situations et en même temps il y a l'air connu, Mille lettres, Mamma Mia, où voilà, il s'en fait une en Turquie, en Italie, en France, Mille lettres, donc c'est resté l'air le plus connu de Don Giovanni. Ce qu'il y a, c'est ici, c'était vraiment une mise en scène virevoltante et on mange véritablement. Donc ce qui se passe en cuisine, en fait, arrive vraiment sur nos assiettes.
Oui, d'ailleurs, le dessert est assez impressionnant. temps, j'hésite à vous le révéler parce que quand même, ça fait partie de la surprise. Mais disons que ça implique du chocolat.
On va dire qu'il va y avoir une grande condamnation à la fin.
Et que Don Giovanni finit en fondu.
Voilà. Le commendateur débarque avec son air très sombre. Don Giovanni, tu seras puni hein, dans le péché.
Alors, pour en revenir au spectacle, savoir est-ce que ça fonctionne ici. En effet, c'est vrai que ça coule, hein, ça se suit, les chants se suivent et le repas aussi avance, on a le temps de manger, il y a des petites interruptions et puis surgissent donc et ce jeu aussi de mise en scène, de danser, de passer sur les tables, de chanter et voilà pour essayer d'animer un petit peu ce repas et nous faire partager aussi ces morceaux de musique.
Alors moi je me déplace parce que j'avais noté une phrase qui était, parce qu'à un moment donné c'est aussi réadapté, hein. Oui. Donc à un moment donné les paroliers disent Amazeto qui chiale parce que sa gonzesse s'est cassée avec Don Giovanni, cesse de ronchonner, nettoie ta morve du nez. Donc il y a aussi des rimes comme ça. Donc ça a été aussi un peu réadapté à la sauce du jour. Moi j'ai eu l'impression, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce groupe un peu populaire à la mort de Rondo Veneziano qui faisait de la musique classique un peu.
Ah oui, c'était de la pop musique classique de du Vivaldi voilà. Pour les grands repas justement. Ici je trouverais quand même que je n'irais pas jusque là. Moi c'était la première fois que je voyais le groupe Laika et Musica Théâtre Transparente, mais j'ai passé un bon moment. Voilà, c'est vraiment, on passe un bon moment. Maintenant, les férus d'opéra n'y trouveront certainement pas leur compte.
Non, au niveau de la trame de l'opéra, bon, autant aller voir l'histoire, si elle est bien menée, elle est vraiment touchante. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a un violon et une basse, hein, à un moment donné, donc il y a ce mélange. Et ce qui est très drôle, finalement, c'est un gadget bien foutu, parce qu'on mange, et quand le couple se prend la tête, il passe d'une table à l'autre. Mmh. Donc, et finalement, moi, je sais que j'ai dû, à un moment donné, enlever mon assiette, parce qu'à un moment donné, ça se court l'un dans l'autre, il y avait plusieurs artères, donc nous on l'avait vu à Mons dans le cadre du carré, et ça fonctionne assez bien parce que c'est vraiment le théâtre festif, donc l'opéra bouffa avec une chouette comédie. C'est une curiosité, je crois que c'est dans les 25 €, donc il y a tout un repas avec plusieurs plats.
Et c'est bon. Non, mais parfois, dans ce genre de formule, le repas est un prétexte, tandis que là c'est vraiment bon.
Et vous n'avez pas besoin, on vous rassure, de mettre un tablier particulier, tout se fait proprement. Voilà.
C'est à voir ce week-end donc au Hall de Scarbeck, la petite ovni, la petite sortie en amoureux du week-end, ça vaut le coup.
Du vendredi au lundi, hein, oui, c'est un long week-end férié, à 19h30 au Hall de Scarbeck, www.hall.be.
Alors, au-delà des cuisines et de l'opéra bouffa, on va, ça doit être dans les caves probablement du public pour Tchinkali, Catherine, que tu as vu aussi à sa création.
Que j'ai vu en son temps, il y a bien 2 ans. Mais avant de vous parler de Tchinkali, je voudrais dire que ce qui m'interpelle pour le moment, c'est qu'il y a toute une série de spectacles qui plongent dans la mémoire ouvrière de la Belgique. Il va y avoir à Liège notamment un thème sur la mémoire ouvrière avec plein de spectacles, notamment Montenero qui parle aussi, qui est allé sur les traces d'Italiennes qui sont venues en Belgique dans les années 50 et ça raconte leur exil, leur histoire, leur déracinement, leur intégration aussi. Il y a Jean-Marie Piem qui va monter un spectacle qui s'appelle J'habitais une petite maison sans grâce, j'aimais le boudin et c'est son histoire, il vient de Serein, il vient de là, ses parents viennent de l'usine et c'est ce parcours où on quitte ce milieu-là sans vraiment le quitter complètement dans ses tripes. Et puis Tchinkali, maintenant au Théâtre Le Public par Hervé Guérisi.
Qui est plus jeune, qui est
une autre
génération.
Qui est plus jeune, mais qui est lui aussi d'origine italienne. Donc il a dans sa famille, évidemment, des gens qui ont travaillé, qui sont venus travailler dans les mines. Au moment où on échangeait de la main-d'œuvre contre des sacs de charbon avec l'Italie, parce que c'était la misère en Italie.
Et avec la Turquie. Petit clin d'œil.
Et avec la Turquie. Alors, l'histoire de Tchinkali a démarré en Italie. C'est un texte de Mario Peretta qui a fait un tabac en Italie et qui a rencontré Hervé Guérisi qui lui a demandé s'il pouvait transposer ce texte en Belgique en y ajoutant un peu de son histoire à lui. C'est un seul en scène. Hervé Guérisi est magnifique, seul en scène. Et c'est une belle histoire. Ça m'a fait penser un peu à Il Postino. C'est un théâtre qui s'inspire beaucoup du théâtre de narration de Ascanio Celestini. Donc on est dans la narration, un récit très simple qui parle d'un facteur, Dépouille, qui vit dans une région où évidemment c'est très pauvre et donc la plupart des hommes sont partis en Belgique pour travailler dans les mines et évidemment écrivent des lettres à leur famille, à leurs femmes, à leurs enfants, à leurs parents. Sauf que la plupart des femmes là-bas sont analphabètes. Donc ce facteur et son boulot, c'est en partie de lire les lettres que les familles reçoivent de ce facteur. Et évidemment, il lui arrive plein de péripéties parce que ces femmes, ça fait quelques années qu'elles n'ont pas vu leur mari, donc elles sont un petit peu en manque. Et donc il y a un petit côté cocasse. Et puis en même temps, tout ça est ponctué de rappels historiques sur ce que c'était l'immigration italienne à ce moment-là, sur les drames qui ont eu...
Le bois du casier.
Voilà, au bois du casier notamment. D'ailleurs, il a joué au bois du casier, c'était assez fort pour lui. Et cette pièce est maintenant reprise au public, c'est un beau seul en scène.
Seul en scène, donc sans vidéo, sans documentaire, appui
non,
vidéo, photo.
Seulement un comédien, une chaise, c'est tout, comme et un récit.
Comme on aime hein, parfois.
Comme on aime, comme du Ascanio Celestini. Il y a un petit côté Roberto Benigni aussi dans sa façon d'être, le burlesque dans la narration, c'est très beau. Et en plus, il a fait une suite que j'ai vue cet été à Spa qui s'appelle La Tournata. Et c'est encore une fois cette histoire d'immigration, sauf que là, ça se passe en Suisse. Mais voilà, il y a toute une série de spectacles sur ce thème-là.
Et Tchinkali est à voir au public.
Ah oui, encore pour une bonne période. C'est jusqu'à la fin du mois de novembre, jusqu'au 30 novembre, www.theatrelepublic.be.
Alors, un petit mot pour nos amis liégeois. Hein. Vous êtes partis, vous deux, aller dans le chapiteau d'Arsenic, voir ce thème sur le monde ouvrier. Il n'y a qu'à Liège qu'on peut faire ce genre de truc. Chapeau les liégeois. Et c'est un programme qui va se dérouler bientôt.
La semaine prochaine. C'est à partir de mardi prochain, pour 3 semaines, je crois. Alors, on a 3 spectacles qui vont tourner. Il y a 33 représentations et beaucoup d'artistes, évidemment, avec des spectacles qu'on a pu déjà voir et une création. On a notamment L'homme qui valait 3 milliards de Nicolas.
35.
35 milliards, oui, c'est encore plus de Nicolas
Ancion. Sauf qu'il en vaut moins maintenant, apparemment. Il en vaut que 17, mais...
Alors, c'est surtout ce spectacle-là qui est symbolique. Hein. Il faut savoir que le chapiteau d'Arsenic est implanté en plein site d'ArcelorMittal et ils vont oser, en tout cas, enlever théâtralement ArcelorMittal dans ce spectacle qui avait été présenté la saison dernière, si je ne m'abuse. Montenero, là, on revient un petit peu à Hervé Guérizy avec recueil de témoignages, parce que quand on parle beaucoup d'immigration, on parle beaucoup des hommes, des mineurs qui sont venus, mais peu de leurs femmes ou des femmes, tout simplement, qui sont arrivées ici. Les mariages arrangés, des choses qu'on ne connaît pas bien. Et un trio de comédiennes ici incarne convenablement
ça. Si, je connais bien. Oui. Et donc, en plus, on fête les 50 ans de l'immigration turque et marocaine, donc il y a ce retour. Ouais. Est-ce qu'on parle de leurs enfants même, ou bien c'est vraiment un retour au passé dans Tchinkali? Est-ce que Hervé porte sa parole à lui?
Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, il commence en racontant sa propre histoire. D'ailleurs, il ne parlait pas italien avant de faire ce projet, et c'est en faisant ce projet qu'il s'est mis à apprendre l'italien, et maintenant il parle italien couramment, mais parce qu'il a certaines facilités de par sa famille.
Et Nicolas Dernier, tu parlais d'un spectacle où on peut voir un condensé des grèves des années 60.
Oui, la fameuse grève 60, hein, de l'hiver 60-61 contre la loi unique du gouvernement Eskens. Patrick Béby, qu'on connaît bien sur nos scènes, avait lancé ça comme projet au Conservatoire de Liège, et c'est devenu vraiment un spectacle à part entière. Un spectacle en plein dans le théâtre documentaire, où on revient vraiment sur les événements. On sent qu'il y a eu une documentation extrême, un recueil de témoignages également très pointu. Tout ça nous est servi par une bonne douzaine de comédiens qui incarnent différents rôles comme ça. Et le petit ajout de Patrick Béby, c'est aussi ce chœur. Il a appelé pour ce spectacle une 60aine de choristes qui sont installés dans le public et qui, par moments, comme ça, portent une espèce de parole ou un espèce de débat qui se déroule devant nous.
Des chants ouvriers.
Voilà, et c'est le point fort, en fait, hein, un petit peu de ce spectacle qui reste très documentaire, très brut, réaliste, comme ça. Mais heureusement, il y a ces petites respirations, je trouve, pour nous emmener un petit peu plus loin. Et un beau parallèle avec la situation actuelle aussi, en fait.
Donc, le chapiteau Arsenic et Rêve Général, tout un programme.
Et ça va tourner un petit peu, mais pas encore à Bruxelles. On sait
pas encore à Bruxelles. Voilà. Ils n'osent pas. C'est la capitale de l'Europe. Alors j'en profite, tant qu'on est à Liège, de dire qu'il y a une expo que je n'ai pas vue sur les affiches communistes en Belgique. Et les affiches communistes, c'est toute une esthétique en soi déjà, donc ça risque d'être bien. J'ai vu quelques images. C'est très intéressant, ça se passe à Liège. Je propose qu'on aille faire campus à Liège. Parfois, ils sont un peu plus engagés que dans la capitale. Sur ce, on fait une petite pause musicale qui n'est pas un chant ouvrier, malheureusement.
Un peu de sac du printemps.
De sacre du printemps.
Oui, c'est bien ça.
Chez les païens, une musique païenne de Stravinsky.
La conspiration.
Voilà, c'est un extrait du Sac du printemps de Pina Bausch. On a pris ça d'une vidéo pour vous donner une petite ambiance, puisque place à la danse maintenant.
Oui, alors à la Biennale de Charleroi Danse, hein, tous les deux ans, festival de danse. Donc Charleroi Danse est le centre chorégraphique de la communauté française qui se trouve à Charleroi avec une antenne, la Raffinerie à Bruxelles. C'est géré par des chorégraphes, Jean-Michel Andemay et Pierre Droulers. Et alors Vincent Thirion, qui est le programmateur, l'administrateur de cette boîte. Et leur festival de danse, bon, c'est 26 productions en 3 semaines, donc c'est costaud. C'est vraiment un moment chorégraphique où on peut exclusivement plonger dans la danse contemporaine. Alors ici, on vous passe le Sacre du Printemps, parce que le Sacre du Printemps a 100 ans. Et alors, à chaque fois qu'on le voit, ça le fait quand même comme effet. Donc c'est une œuvre qui, à l'époque, a fait un scandale. Et ça s'est joué les ballets russes à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées. 8 représentations, tellement qu'il y a eu le boxon, le bordel, tout à fait. Alors pourquoi ? Parce que maintenant, bon, on est 100 ans plus tard. Il faut savoir, ça a été les débuts, on dit que c'est le début de la danse moderne. Pourquoi ? Parce que c'est fini les tutus, c'est fini par exemple pour les danseurs de se mettre sous pointe. À un moment donné, on plante ses pieds au sol. Ça paraît tout con à dire comme ça, mais à un moment donné, il y a des codes dans la danse classique qui changent. Ce qui se passe, Stravinsky, au lieu de faire une musique un peu plus féerique, comme l'après-midi d'un faune ou ce genre de choses, vient dans quelque chose de très païen. Et la danse suit, on a attaqué à un moment donné les costumes qui avaient l'air un peu folkloriques. L'histoire, c'est quoi ? C'est qu'à un moment donné, c'est un opéra, enfin une musique en deux parties. Il y a une ronde où alors on voit des jeunes qui font un peu une ode à la fertilité et à un moment donné, le printemps va venir ou va pas arriver, on sacrifie et comme par hasard, bingo, c'est une jeune fille qu'on doit sacrifier. Donc la deuxième partie, on se charge tous sur une jeune femme pour la sacrifier pour que le printemps réapparaisse. Et donc il y a des musiques un peu plus païenne dans ce côté-là. Alors, deux versions qui sont des monuments dans la danse, c'est celle de Béjart en 59 à Bruxelles. Faut nous le dire, à un moment donné, ça se passe chez nous. Et alors là, qu'est-ce que c'est ? J'ai des gens qui l'ont vu à l'époque et qui trouvaient ça incroyable. C'était en collant, alors je veux dire un peu des collants de gym. On n'imagine pas maintenant, ça fait un peu vintage, mais c'est cette période. Il y a des morceaux sur YouTube qu'on peut voir. Ça fait, bon, pour moi, je trouve ça un peu dépassé, mais il y a des poses de fertilité et de sexe qui sont assez étranges. Quand vous dites que le public bourgeois de la Monnaie a vu ça en 59, c'était la révolution pour ces gens qui étaient un peu coincés et surtout la jeunesse qui était un peu aussi coincée. On est dans les années 59. Et alors la deuxième, c'est 75, c'est Pina Bausch. Alors Pina Bausch, elle a mis à un moment donné carrément toute la scène dans de la tourbe, parce que c'est bon, ça se passe aussi dans la nature avec ce côté un peu violent de la sève, hein, un peu sexuel et violent, dans de la tourbe. Et j'ai une comédienne qui me racontait, qui vient de le voir au single, ça repasse, hein, la copianique Pina Bausch repasse, et elle a dit elle s'est pris ça en pleine figure parce que ça fait encore de l'effet. Moi je l'ai vu il y a deux ans au Cirque Royal, donc c'est des pièces des années, là c'est une pièce de 75 qui est toujours aussi moderne. Alors ici dans les 100 ans, dans l'anniversaire, la Biennale présente 4 sacres du printemps, et c'est curieux parce que l'un est un solo, l'autre est un duo, l'autre une pièce de 6. Donc je demandais à un moment donné à Vincent Thirion si c'était pas un peu une marque, tu vois, chacun se prend le sacre du printemps et il fait finalement son truc. Et il me disait que dans chaque sacre qu'on verra ici, il y a un lien avec la musique. Par exemple, David Wampach fait un duo assez drôle sur le sacre où c'est juste basé avec le souffle. Et dans l'histoire du souffle, à un moment donné, on entend la musique. J'ai vu des extraits sur YouTube, ça a l'air intéressant. Christina Rizzo, une chorégraphe qu'on ne connaît pas, fait une version où on sera 80 spectateurs avec dans nos écouteurs la musique Creux du Sacre, et elle va faire des mouvements très décalés par rapport à la musique et par rapport au rythme, un peu pour jouer sur nos perceptions. Là aussi, j'ai vu un extrait sur le net et ça tient la route. Donc il y a ce volet Sacre du Printemps avec, comme il se doit dans le milieu de la danse, quand même un colloque pour interroger la bête, et alors un autre événement de taille qui est l'arrivée de la triche Trisha Brown Company. Alors Trisha Brown, vraiment pour faire court, c'est une des chefs de file de la danse postmoderne américaine dans les années 60-70. Faut vous dire, si vous voyez Anne-Theresa de Kersmacher ou ses chorégraphies du début, ça vient fortement de là. Anne-Theresa était partie, tous les chorégraphes belges qui sont partis à New York dans les années début 80 ont eu le flash. C'est quoi ? C'est une musique totalement libre où on se met sous une structure, on va dire, abstraite ou mathématique, tous ensemble, et à un moment donné, on voit où cela nous mène. Pina Bausch était aussi connue pour avoir mis ses danseurs sur les toits de New York. Alors aujourd'hui, tout ça nous paraît...
Trisha Brown.
Aujourd'hui, tout ça nous paraît, bah oui, so what ? Mais ce qu'on voit aujourd'hui, la liberté que les chorégraphes ont aujourd'hui viennent quand même du passé, des révolutions successives. Tout ça pour dire que Catherine a vu Trisha Brown à Paris récemment. Alors, qu'est-ce que ça donne en 2013 ?
Alors, c'est marrant que tu parles de costumes moulants de gymnastique parce qu'on est exactement là-dedans. Tous les danseurs sont en costume lycra collant. On appelle ça un académique, j'ai appris. Et en effet, ça paraît assez daté. Et en même temps, c'est très intéressant parce qu'on se dit « Ah bah oui, ça vient de là, c'est pour ça qu'on est arrivé jusqu'ici en danse contemporaine. » Donc ça reste très intéressant d'imaginer, de visualiser ce chemin qu'a fait la danse contemporaine. On est dans la déconstruction totale du mouvement. On est dans des gestes très découpés, très mathématiques, comme tu le disais, dans une musique expérimentale, des sons, des choses abstraite, extrêmement radicale. Et en même temps, j'ai vu notamment un petit solo de toute beauté, Homemade, ça s'appelle, avec une seule danseuse qui porte sur son dos une caméra, un projecteur, qui projette un film d'elle en train de danser dans son dos. Et donc évidemment, quand elle bouge, l'image bouge, vient se projeter sur nous, sur le mur, sur le sol. Et tout ça donne une espèce de métaphore de cette danseuse.
Ça donne pas le vertige.
Non, mais c'est intéressant de voir cette danseuse qui semble courir après sa propre image, qu'elle ne la rattrapera jamais. Ça dure 10 minutes et on se dit c'est fou parce que c'est une pièce qui date de 1966 et déjà le multimédia était là, déjà l'image sur le plateau était là et finalement ça reste très contemporain. Et voilà. Et donc elle vient dans la Biennale de Charleroi Danse avec deux parties. Une partie qui s'appelle Grand Répertoire avec des pièces marquante de son répertoire, mais aussi une autre partie qui
s'appelle Early Works.
Qui reprend là plutôt des projets qu'elle a voulu jouer dans des sites alternatifs, puisque c'était son truc. C'est, comme tu l'as dit, une des premières qui a fait, par exemple, danser les comédiens sur les façades des immeubles à New York ou sur les toits. Et alors, cette fois-ci, à Charleroi, ce sera dans la rotonde du Palais des Beaux-Arts, donc dans une, apparemment une disposition insolite.
Et Vincent Thirion, le programmateur, me disait que c'était important pour Charleroi Danse d'avoir un lien avec l'histoire et la transmission. Il y a 2 ans, ils avaient reçu Mercy Cunningham, juste au moment de son décès, pas de bol. Et ici, bon, en coulisses, on se dit que bon, Trisha Brown est malade pour l'instant.
Elle est pas vraiment malade, elle a eu quelques attaques cérébrales qui l'ont beaucoup affaiblie. Elle a des grosses pertes de mémoire, elle n'a pas Alzheimer comme la rumeur a couru. Mais elle est maintenant incapable de créer de nouvelles chorégraphies. Elle a passer la main à 2 co-directrices artistiques qui sont dont le travail maintenant est de faire vivre ce répertoire, qui est pas facile quand on ajoute pas de 109, mais bon voilà, pour le moment il y a une centaine de pièces à montrer et elles peuvent jouer avec ça, donc
comme Pina Bausch, hein, qui circule avec le répertoire, hein. Et c'est étrange parce que il y a une mode comme ça de revenir au passé. Donc Yann Fabre reprend ses pièces du début, Van de Caybus reprend ses, Anne Teresa a repris aussi ses pièces du début, et il y a un retour comme ça, comme un besoin. Alors Thirion, la Biennale ne l'explique pas trop, personne n'a envie vraiment de l'expliquer, parce qu'on se demandait à un moment donné, tiens, est-ce qu'il y a encore des tendances ? Donc on a eu le postmodernisme américain qu'on voit ici, la danse-théâtre en Allemagne, hein, de Pina Bausch, la non-danse des années 80-90 en France, et ici on n'arrive plus à voir vers quelle tendance...
On n'a pas assez de recul peut-être.
Oui, mais la danse, tu vois, la non-danse à Paris, ça a été très vite à un moment donné dénominé. Apparemment, c'est les journalistes, Catherine, qui lancent le mot d'ordre d'un mouvement. Voilà, en tout cas, c'est 2 moments phares, un peu historiques, mais pour les générations à venir. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça se passe à Charleroi Danse, quelques sacres à Bruxelles, notamment au Kai Theater. Et puis, il y a d'autres spectacles plus contemporains, des créations, évidemment. Une des créations phares que j'ai envie de pointer, c'est Ovaria, c'est la compagnie Mossou Bonté, qui fait une histoire, l'histoire d'imposture. Alors, pour faire gros, mais vraiment gros de chez gros, le Mossou Bonté, c'est vraiment l'étrangeté. Il travaille tout ce qui est subconscient ou le décalage face à la réalité. Et ici, tout leur thème, c'est les postures artificielles qu'on peut avoir dans la société actuelle. Et c'est toujours des véritables tableaux visuels. Donc, c'est d'une beauté époustouflante chez Mossou Bonté, parce qu'il y a un travail sur le son, sur l'image, sur la couleur et la lumière. Et toujours avec un côté théâtre-danse qui est très très beau. On peut aller les yeux fermés, il y a toujours de l'émerveillement et du trouble chez Mossou Bonté. Un petit à épingler dont on entend, c'est Mind Gap, c'est Anton Latchki, ça doit être son premier spectacle, et apparemment, lui travaille dans l'humour et le burlesque. Apparemment, c'est des danseurs lancés sur des airs connus de Mozart, de Verdi et ce genre de choses. Donc il y a en même temps de la danse abstraite, de la danse contemporaine un peu cérébrale, on va dire, et puis de la danse ludique ou physique qui est très drôle. C'est 26 productions, on vous conseille d'aller voir plutôt sur le site de la Biennale et de vous faire un bon bain de danse contemporaine. Ça ne reviendra pas avant 2 ans.
Les petites annonces ?
www.labiennale.be, petit signe. Et petites annonces de cette reprise, Catherine, Mon Royaume, que tu avais vu la chance de voir au Théâtre de la Vie et qui revient au Théâtre de la Vie cette semaine.
Ten Hood, Mon Royaume, c'est un chouette petit objet qui est mis en scène par Romain David, qui nous vient du Raoul Collectif, dont on a beaucoup entendu parler avec Le Signal du Promeneur. Ici, il a eu l'idée de confronter deux univers, a priori irréconciliables, deux jeunes adolescents et une octogénaire d'un même quartier, donc Saint-Josse. Et en racontant leurs histoires, on se rend compte qu'il y a beaucoup de préjugés sur l'un et sur l'autre. Et ces deux préjugés se parlent dans un carré sur la scène avec cette mamie qui est incroyable. Et ces deux jeunes aussi, on n'est pas dans du théâtre action ni du théâtre documentaire. On est dans la vie, on est dans la simplicité, on est dans l'humour et ça fait du bien.
C'est à voir jusqu'à dimanche, www.théâtredelavie.be.
Il me reste une dernière annonce pour Vortex, Vortex Temporum d'Anne-Thérèse de Kersmacher, ce soir à la Monnaie jusqu'au 10, hein, donc jusque dimanche. Alors, Anne-Thérèse de Kersmacher, danse abstraite, on va dire, pour eux. On entend le fond musical qui, elle est accrochée à la musique, hein, son rapport à son dialogue très profond avec la musique. Donc ici, elle nous a dégoté un compositeur français, Gérard Grisset, qui est décédé et qui fait cette composition de Vortex Temporum dans le spectacle. C'est Ictus qui prend en charge en live, évidemment, cette composition. Et d'ailleurs, c'est Pluvier, Jean-Luc Pluvier de Ictus qui nous a recommandé cet extrait qui n'est pas des leurs, parce que ça a été créé ailleurs, mais d'un ensemble qui s'appelle Que Ryan. Et il nous conseille ce morceau en nous disant que ça montre bien la profondeur de l'atmosphère qu'il y a dans ce spectacle. Alors, Anne-Thérèse de Kersmacher, que fait-elle avec cette musique contemporaine? Elle explore la contraction et la dilatation du temps. Là, je lis les notes d'intention dans un tourbillon et dans un fractionnement. Il faut savoir que cette musique contemporaine, on l'a dit spectrale, hein, donc elle métamorphose des sons, un son qui se dilue et qui se métamorphose en cours de route. Et ce sera dirigé par Georges Elie Hectors de Ictus. C'est à voir donc jusque dimanche dans une ambiance clair-obscure. Les danseurs seront mélangés aux musiciens, mais pas un mélange. Voilà, toi tu te mets là, toi tu te mets là. Donc il y a vraiment une danse entre l'un et l'autre et les musiciens devant leur instrument. On m'a dit que c'était un spectacle époustouflant. Allez savoir, moi j'irai voir ça demain, ça commence ce soir et c'est jusqu'à dimanche, Anne-Thérèse de Kersmacher à la Monnaie. Ainsi se termine par la conspiration des planches, un théâtre, danse pour tout le monde. Rendez-vous la semaine prochaine, bon spectacle à vous deux.
De manière spectrale peut-être, le podcast de l'émission sur demandezleprogramme.be. Bonne planche à tous.
Radio Campus, Bruxelles, 92.1.